Comme tous les vendredis, des scientifiques d'horizons divers se retrouvent dans le club des Têtes au Carré pour évoquer quelques faits marquants de l'actualité scientifique. Au menu des discussions aujourd'hui, un nouvel outil pour la police scientifique, le portrait robot génétique, une enquête sur les jeux vidéo et les adolescents, une nouvelle exposition qui dévoile les trésors de la Terre, et puis à la une de l'actualité scientifique, l'Office européen des brevets qui dit non à Monsanto. Le semencier américain souhaitait breveter une tomate résistante à un champignon. Les défenseurs de la biodiversité de No Patents on Seeds, pas de brevet pour les semences, avaient attaqué ce brevet en mai dernier, criant à la biopiraterie. Ils ont visiblement été entendus par l'Office européen des brevets. Nous ferons le point sur cette affaire dans un instant avec le généticien et agronome Pierre-Henri Gouillon. Pour adresser vos questions à nos invités ou réagir sur l'un de ces sujets, vous connaissez le chemin. Rendez-vous sur la page de La Tête au Carré sur franceinter.fr ou sur Twitter avec le mot-clé L'Attaque. Cette émission est réalisée par Violaine Ballet, préparée par Camille Jusot, Céline Louzen, Axel Villard et Gabriel Bennett.
La Tête au Carré, le club, avec Daniel Fievé sur France Inter.
Catherine Bourguin, Céline Bonner et François Farge, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Catherine Bourguin, vous êtes généticienne, chercheuse à l'INSERM. Vous avez écrit ADN Superstar ou Superflic aux éditions du Seuil. Cette année, la Cour de cassation a admis la légalité d'un portrait robot effectué à partir d'ADN. C'était la première fois en France qu'un portrait robot génétique était ainsi réalisé dans le cadre d'une enquête judiciaire. C'était dans quelle affaire que cela a été fait ?
C'est une affaire de violeur récidiviste à Lyon.
Voilà, qui a sévi entre 2012 et 2014. Et cette pratique pourrait se multiplier en 2015 ?
Ça dépend s'il y a un changement législatif ou pas, parce que là, c'est une décision qui s'est mise dans les interstices d'un flou juridique.
Voilà, vous allez nous expliquer ce que sont capables de faire avouer les scientifiques à notre ADN exactement, et puis les réserves éthiques que vous voyez à l'emploi de cette nouvelle technique. Céline Bonner, vous êtes psychologue, clinicienne, spécialiste des addictions comportementales, et vous avez participé à la réalisation de cette enquête sur l'usage problématique des jeux vidéo chez les adolescents. Quelle proportion d'adolescents aurait un problème avec ces jeux, selon votre enquête ?
Sur l'étude qu'on a faite, qui porte sur un peu plus de 2000 collégiens lycéens, donc je précise, ce n'est pas une étude épidémiologique, mais sur cette prévalence-là, enfin sur cette population-là, on a 14% d'adolescents qui ont un usage problématique des jeux vidéo.
Ça fait 1 sur 8.
Ça fait 1 sur 8.
Est-ce qu'on peut vraiment parler d'addiction ? Vous dites que ce n'est pas une étude épidémiologique. Est-ce qu'on peut parler d'addiction chez ces jeunes ?
Le fait que ce ne soit pas une étude épidémiologique n'a pas de lien avec le fait de parler d'addiction ou pas. C'est juste qu'on ne peut pas généraliser ces 14% d'usagers problématiques à l'ensemble de la population générale.
D'accord. Ce n'est pas un échantillon représentatif de la population française.
Non, et ce n'était pas le but de toute façon de cette étude. En revanche, aujourd'hui, on est à un moment où on a un recul numérique qui n'est pas suffisant pour avoir cette reconnaissance scientifique et médicale de l'addiction aux jeux vidéo.
Vous allez nous expliquer comment cette enquête a été réalisée, à partir de quand il faut s'inquiéter pour son gamer d'ado, et puis quel est le profil type du joueur qui a un usage problématique. Également avec nous, autour de la table, François Farge. Vous êtes minéralogiste au Muséum National d'Histoire Naturelle, où s'est ouvert le 19 décembre dernier, c'est tout frais, l'exposition Trésors de la Terre. Vous avez fait partie du conseil scientifique de cette exposition, et vous vouez une véritable passion à ces minéraux qui laissent pourtant beaucoup de gens de marbre. Ce monde minéral gagne à être connu, selon vous ?
Oui, effectivement, tous les gens qui étaient peut-être un peu timides pour aller voir l'expo, et notamment d'en discuter beaucoup avec les ouvriers qui nous ont aidés à ce chantier. Et après, quand ils ont découvert toute cette féerie de couleurs, de formes, d'éclats, de brillance, c'est tous ces arcs-en-ciel de couleurs, et ben ils sont émerveillés. Oui. Donc nous proposons 600 en exposition, 600 échantillons parmi les plus beaux des collections du muséum.
Voilà, avec des cristaux géants, des pierres précieuses et des météorites. Vous allez nous raconter tout ça. Votre passion pour la minéralogie vous a d'ailleurs entraîné dans une enquête extraordinaire à la recherche du grand diamant bleu de Louis XIV, dont on voit une copie. Vous nous direz comment vous l'avez retrouvé et dans quel état, surtout, vous avez retrouvé ce diamant. Pour adresser vos questions à nos invités ou réagir à l'un de ces sujets, France Inter .fr, rubrique La Tête au Carré. À la une de la science aujourd'hui, les combats contre la brevetabilité du vivant et l'Office européen des brevets qui rejette une demande de brevet de l'industriel Monsanto sur un plant de tomate.
Des tomates. Tu as vu ça? Ce type est un contrebandier. Il faut alerter la police ou le FBI ou le contre-espionnage.
À cause de quelques tomates?
Mais tu ne comprends pas.
Qu'est-ce que tu sais exactement des tomates? Dis-moi, hein, que penserais-tu si on te cultivait pour pouvoir te manger? Tu ne te révolterais pas à la toute première occasion?
Le collectif d'associations No Patent on Seed, pas de brevet pour les semences, l'annonçait mardi comme une victoire sur son site internet. La demande de brevet déposée en 2007 par Monsanto sur un plant de tomates résistant à un champignon a été rejetée par l'Office européen des brevets. Pour commenter cette décision, nous sommes avec Pierre-Henri Gouillon, généticien et agronome, professeur au Muséum national d'histoire naturelle et directeur du laboratoire Origines, structure et évolution de la biodiversité. Bonjour Pierre-Henri Gouillon.
Bonjour.
Alors, ce rejet de l'Office européen des brevets est annoncé comme une victoire par les défenseurs de la biodiversité de No Patent on Seed. Ils avaient attaqué ce brevet en mai en parlant de biopiraterie. Pourquoi cette accusation de biopiraterie à l'égard de Monsanto ?
Oh, la biopiraterie, c'est une vieille histoire. Ça fait un moment que la question existe, depuis en fait que les entreprises de biotechnologie ont réussi à obtenir le droit de breveter des introductions génétiques ou même simplement de breveter des plantes ou de breveter des découvertes génétiques. Parce que très rapidement, on a constaté que des scientifiques allaient se promener dans des pays, souvent des pays tropicaux, vous voyez, genre Amérique du Sud, interroger les chamans qui utilisaient des plantes médicinales depuis très longtemps et ensuite brevetaient les plantes en question. C'est-à-dire qu'ils s'appropriaient le savoir de ces chamans, donc on a pu parler de piraterie puisqu'il s'agissait bien donc de s'approprier quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre précédemment.
Et dans le cas présent, qu'est-ce que les ingénieurs de Monsanto ont fait exactement sur cette tomate pour prétendre pouvoir la breveter ?
Alors il y a deux choses qui sont inadmissibles dans cette demande de brevet, hein, puisque ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés dans une banque de graines publique allemande, donc ils ont récupéré des semences de tomates qui produisaient des plantes résistantes à ce champignon qui cause des maladies de la tomate. Et donc il s'agissait donc d'un bien public qui était déjà connu, qui n'avait absolument aucune découverte de la part de Monsanto dans cette affaire. Ils ont juste repris ces graines qui étaient disponibles. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est déjà de la piraterie de vouloir breveter ça. Et puis, en plus, ils n'ont même pas utilisé la moindre technologie particulière pour introduire le gène dans leur variété de tomates. Ils ont simplement fait des croisements, comme on fait depuis 10 000 ans, depuis le néolithique. On croise des plantes et on sélectionne celles qui ont les caractéristiques qu'on cherche. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, on sait très bien que les méthodes naturelles de croisement ne peuvent pas donner lieu à brevet. C'est pas normal qu'on puisse breveter les autres méthodes, mais alors celle-là, c'est encore,
ouais, voilà,
plus extraordinaire.
C'est ça, vous êtes
donc
globalement contre.
Deuxième chose inadmissible, ouais, dans cette affaire, il n'y avait vraiment aucune raison de permettre le brevet sur cette histoire.
Qu'est-ce qui est brevetable en Europe? Une variété de légumes, un gène, un plant, une technique? Alors, qu'est-ce qu'on brevette exactement?
C'est un peu compliqué, je ne vais pas pouvoir vous faire un exposé complet sur les questions de brevet. D'ailleurs, ce n'est pas ma spécialité, je ne suis pas juriste. Hein, mais en gros, ce qu'on a le droit de breveter, la philosophie générale du brevet, c'est qu'on peut breveter une invention, on ne peut pas breveter une découverte. C'est-à-dire que si vous découvrez quelque chose, c'est quelque chose qui vous préexistait, vous l'avez simplement découvert, vous ne pouvez pas le breveter. Ce que vous pouvez breveter, c'est une invention. Alors du coup, au début, d'ailleurs, des OGM, les entreprises ont demandé des brevets et les offices aussi bien américains qu'européens leur ont refusé puisqu'il s'agissait d'un gène et que de breveter un gène, c'était pas possible puisqu'un gène, il est préexistait, il a été découvert mais il n'était pas inventé. Le truc qu'ont trouvé les avocats des grosses boîtes de biotech, hein, Monsanto en tête, ça a été de dire, eh bien, on va pas breveter le gène, on va breveter le fait d'introduire le gène dans la plante. Alors ça, on va dire que c'est une invention. Et du coup, alors évidemment, on pourrait dire qu'il y a eu une seule invention une fois pour toutes, c'était comment mettre de l'ADN dans les plantes. Alors évidemment, il y a eu des raffinements sur ces méthodes, mais qu'on brevette les méthodes qui permettent d'introduire les gènes, ça aurait pu à la rigueur être admissible. Mais ils ont réussi à obtenir que à chaque fois qu'il rentrait un gène, toujours avec la même méthode, ça faisait une nouvelle invention. Et du coup, ils ont réussi en réalité à breveter les gènes.
Alors là, en l'occurrence, ça n'est pas passé, hein, puisque la commission des brevets européens a dit non, on n'accepte pas ce brevet. Il y a eu d'autres exemples où les décisions ont été différentes. Est-ce que cette tomate, c'est pas un peu le légume qui cache le potager avec plein d'autres brevets qui, eux, sont acceptés sur... Alors, on a eu le melon, on en a eu d'autres, hein, des poivrons qui, eux, sont effectivement brevetés en Europe.
Voilà, donc effectivement, le jeu consiste à breveter tout ce qui est possible et je pense que les boîtes essayent tout ce qu'elles peuvent pour essayer de breveter toutes les possibilités. on en est aujourd'hui. Il y a eu donc une période où on ne brevetait au fond que des introductions de génétique, par génie génétique, par manipulation génétique. Hein. Mais aujourd'hui, ils essayent de breveter carrément des choses beaucoup plus subtiles. Par exemple, le fait de breveter un gène qu'on a sélectionné, tout comme fait par une sélection assez classique, sauf qu'on a utilisé des marqueurs sur l'ADN, c'est-à-dire des petits trucs qu'on s'est repérés sur l'ADN pour améliorer la vitesse à laquelle on repère le gène dans les croisements. Et puis, ils en arrivent même à essayer de breveter des goûts. Par exemple, le goût un peu amer d'un fruit, on va essayer de breveter ça. Alors tout ça, c'est des essais qu'ils font constamment. Hein,
c'est puis, des tentatives. Et voilà. Pierre-Henri Gouillon, selon vous, le refus là sur le cas de cette tomate n'est pas du tout, ne va pas faire jurisprudence et n'est pas du tout une garantie que les industriels vont se calmer dans les prochaines années ?
Oh non, sûrement pas. Il y a déjà eu des tas de brevets qui ont été cassés. Ils s'en fichent. Le jeu consiste à essayer. Il faut bien comprendre qu'il y a derrière ça... un enjeu énorme, puisqu'il s'agit de la possession de toute la nourriture de la planète. Le jour où les entreprises auront réussi à mettre suffisamment de gènes brevetés dans les plantes cultivées, ils seront les possesseurs absolus de tout ce qu'on mange. Parce que lorsqu'un gène est breveté, je ne sais pas si tous les auditeurs le savent, ça vaut la peine de leur redire, toute graine qui possède ce gène, eh bien, on n'a pas le droit de la planter, on a le droit de la semer. Donc le résultat, c'est que lorsqu'on vend une variété avec des gènes brevetés, évidemment l'agriculteur n'aura pas le droit de ressemer sa semence. Mais pire que ça, si le voisin est contaminé par le pollen de ma plante contenant le gène breveté, le voisin n'a plus non plus le droit de semer ses semences contenant le gène breveté. Donc en réalité, vous mettez un gène breveté dans une plante, vous laissez le vent emporter le pollen chez les autres, et toutes les plantes vont vous appartenir au bout d'un certain temps. Donc l'enjeu est énorme. Il s'agit de la possession de la nourriture de la planète. Vous comprenez bien que les entreprises sont prêtes à faire des tas d'essais pour voir tout ce qu'elles arriveront à breveter. Et le jeu consiste à breveter tout ce qu'elles pourront de façon à se partager entre elles, les quelques grosses entreprises qui jouent ce jeu-là, se partager entre elles la possession de toute la nourriture de la planète. La seule solution, ça serait d'interdire tout brevet sur les gènes, parce que ce brevet est absolument scandaleux. Il permet en gros de voler la possession de la biodiversité. Les agriculteurs ont développé la biodiversité des semences pendant 10 000 ans, du néolithique jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, quelques entreprises, en rentrant quelques gènes brevetés comme ça dedans, sont en train de voler cette diversité, et en la volant d'ailleurs de la détruire. Il faut bien voir qu'évidemment, une fois qu'ils la possèdent, ils ne la conservent pas, mais ils vendent des variétés qui sont les mêmes, qui sont cultivés sur des très grandes surfaces. Donc en fait, on est en train de perdre à toute vitesse la diversité qui a été fabriquée par l'agriculture.
Merci Pierre-Henri Gouillon de nous avoir éclairé sur ce refus de brevet d'une tomate pour le semencier américain Monsanto. Au revoir.
Merci, au revoir.
Et dans le reste de l'actualité scientifique, des chercheurs britanniques et israéliens ont créé in vitro des précurseurs de cellules sexuelles, spermatozoïdes et ovules, à partir de cellules de peau humaine. Ce type d'expérience avait déjà été réalisé chez la souris, mais c'est la première fois qu'il est conduit avec une grande efficacité sur des cellules humaines. Selon les scientifiques, ces cellules humaines transformées pourraient se développer en gamètes fonctionnelles. Pour vérifier cette hypothèse, il prévoit ensuite d'injecter les précurseurs de cellules humaines à des souris et voir si elles se développent comme prévu en spermatozoïdes ou en ovules. Cette étude publiée dans le journal Cell le 24 décembre dernier est peut-être un pas vers un nouveau traitement de l'infertilité, mais il ne manquera pas de soulever quelques questions éthiques. 15 ans après, la tempête de 1999 laisse encore des traces et la Fédération des forestiers privés en France fait le bilan. Avec la chute des grands arbres, la tempête a favorisé le développement des forêts de façon importante et les grands animaux, cervidés, chevreuils et cerfs, ont vu leur population croître. Aujourd'hui, ces animaux créent des surcoûts en termes de gestion forestière en l'absence de prédateurs naturels. Ils causent des dégâts sur les arbres qui sont alors inutilisables pour le bois d'industrie ou le bois d'œuvre, soulignent les professionnels de la filière bois. En activité depuis 24 ans, le télescope Hubble est encore à l'origine de nouvelles découvertes. Grâce à lui, les astronomes russes et américains ont décelé une galaxie à proximité de notre Voie lactée. Située à 7 millions d'années-lumière, cette galaxie sphéroïde naine a été baptisée KKS3. Elle se caractérise par l'absence de gaz et de poussière cosmique, les matières premières permettant de former de nouvelles étoiles. Pour les scientifiques à l'origine de cette découverte, cela montre que notre voisinage image est moins vide que ce que l'on pensait. Leur article a été publié sur le site de la Royal Astronomical Society. Enfin, François Hollande, inspiré par la science, il a reçu hier pour Noël un labrador de la part de la Fédération des anciens combattants français de Montréal et il l'a baptisé Philae en référence au robot européen qui s'est posé sur la comète Churyumov-Gerasimenko le 12 novembre dernier. Dans un instant, on parle portrait robot, jeux vidéo et minéraux. Les invités de ce club des têtes au carré attendent vos questions à la page de l'émission sur franceinter.fr. Don't see that I never moved you just because I saw the light before you did. And yes, I know that I never showed you all the rooms inside of my soul. C'était The Cooks, Forgive and Forget, dans la tête au carré sur France Inter.
T'avais des poils à analyser?
Pas de bulbe dans l'échantillon, mais l'analyse ADN ne nous aurait pas apporté de réponse. Ces poils ne proviennent pas du kidnappeur. J'ai procédé à une analyse comparative et ils ne sont pas d'origine humaine, mais bovine.
Eh oui. ouvrier, peut-être un nouvel outil dans la panoplie des experts. Un portrait robot génétique a été réalisé pour la première fois en France dans le cadre d'une enquête policière. Il s'agissait d'identifier un violeur en série qui a sévi à Lyon entre 2012 et 2014. L'emploi de ce nouvel outil scientifique pourrait devenir plus courant à l'avenir. Catherine Bourguin, vous êtes généticienne à l'INSERM, présidente de l'association Sciences Citoyennes et auteure du livre ADN Superstar ou Superflic aux éditions du Seuil. Dans quelle mesure est-il possible aujourd'hui de faire le portrait physique avec les traits morphologiques d'une personne uniquement en regardant les molécules de son ADN ?
Alors c'est un peu difficile de répondre à cette question rapidement parce qu'il faudrait prendre trait par trait et puis dire ce qu'on dit aujourd'hui à la génétique. Alors pour faire simple, on va dire que ce qui concerne la couleur des yeux, la couleur des cheveux et la couleur de la peau, on arrive à peu près à des prédictions bonnes dans la plupart des cas. J'insiste là-dessus parce que c'est une des particularités de ces prédictions. C'est qu'il y a, il y a des cas considérés un peu comme extrêmes, qui sont simples et qu'on arrive à déterminer assez bien d'un point de vue génétique. Et puis, il y a des personnes qui sont un peu entre deux, qui ont les yeux bleus ou marrons. Ça dépend qui décide, ça dépend de la tenue que la personne porte. Mmh. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, c'est des personnes pour lesquelles la détermination de la couleur des yeux n'est pas facile. Donc, on va considérer globalement que c'est assez précis pour ce qui est donc les couleurs. Sauf pour des cas particuliers. En revanche, pour ce qui est donc plus morphologique au sens de, par exemple, la taille, c'est extrêmement difficile de déterminer la taille à partir d'une analyse génétique. Il y a eu beaucoup d'études internationales qui montrent qu'en fait, à partir de l'ADN, on n'arrive qu'à prédire 50 à 60% des différences de taille entre les personnes.
Alors, le premier portrait robot qui a été utilisé par la justice en France, c'est vrai qu'il était assez sommaire. Voilà ce qu'il disait. Sexe masculin, yeux marron, tendance foncée, peau claire, tendance mat, cheveux châtains ou brun, noir, tendance foncée. On est effectivement sur des tendances sans avoir de renseignements très précis parce que en fait, c'est plusieurs gènes qui interviennent sur ces caractères.
Alors il y a au moins deux enjeux. Le premier, effectivement, vous l'avez évoqué, c'est que ce ne sont pas des caractères simples et donc il y a toujours plusieurs gènes qui interagissent, on le sait. Et souvent, il y a aussi des facteurs d'environnement qui interagissent. Donc, pour rester sur la taille, on sait bien que selon ce que mangent les enfants, ils seront plus ou moins grands. Ce n'est pas pour rien que la taille moyenne des Français a augmenté de, je ne sais plus combien, une vingtaine ou trentaine de centimètres en une centaine d'années.
Ça dépend au moins aussi de notre environnement et pas seulement de nos gènes.
Tout à fait,
notre
exactement.
Taille.
Voilà. Donc, il y a beaucoup de caractères qui ne dépendent pas que des gènes. Et puis, la deuxième chose, c'est que ce n'est pas si facile que ça de déterminer ce que c'est qu'un caractère. J'évoquais tout à l'heure la couleur des yeux. En fait, la couleur des yeux, ce n'est pas marron, bleu, vert, noir. C'est une palette de couleurs qui va du bleu au noir ou du vert au noir, du marron au noir. Et en fait, ce sont des traits continus, et pas des traits singuliers. Et du coup, quand on essaye de faire des études génétiques, la plupart du temps, on définit des catégories qui ne sont pas des catégories naturellement existantes, mais qui sont créées par les scientifiques pour essayer d'avancer. Et ça reste insatisfaisant puisque les individus, eux, ne sont pas a priori dans des catégories.
Alors jusqu'à il y a peu, cette technique consistant à déduire des traits physiques d'une personne à partir d'ADN n'était pas autorisée en France dans le système juridique. Qu'est-ce qui était autorisé exactement ? Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'ADN ? Les policiers, la justice avaient le droit de faire avec notre ADN ?
Alors, jusqu'à la décision de la Cour de cassation, ce que les policiers avaient le droit de faire, c'était d'identifier une personne. Quand on dit identifier, c'est savoir si on prend un petit peu d'ADN, s'il correspond à vous ou pas. Donc, c'est faire des comparaisons, mais sans avoir aucune information à partir de l'ADN sur à quoi ressemble la personne, est-ce qu'elle va être malade, est-ce qu'elle est malade, etc. C'était de l'identification stricte. Mmh. Et ça, c'est possible en France, uniquement si c'est ordonné par un juge. Je n'ai pas le droit, moi, de le faire pour savoir si c'est l'enfant et bien le fils de son père. Il faut une ordonnance du juge. Donc ça, c'était aussi possible pour les policiers.
Et pourquoi, maintenant, le portrait robot génétique semble possible ? Comment ce verrou juridique a-t-il sauté ?
C'est assez étonnant. Moi, personnellement, je pensais que ce n'était pas possible et que, c'était pas que la loi française telle qu'elle était écrite ne permettait pas de faire ce genre de choses, puisque la loi fait une distinction entre, d'une part, l'identification des individus, je viens de l'évoquer, et d'autre part, l'analyse des caractéristiques génétiques. Mais la loi dit que caractéristiques génétiques, c'est savoir si une personne est malade ou pas, si elle va être malade ou pas, ou si elle peut bénéficier d'un traitement particulier en fonction de son ADN. Donc, en fait, les caractéristiques morphologiques ne sont pas dans la loi. Il y a une espèce de vide juridique autour de ça. Savoir, est-ce que pour moi, c'était évident que caractéristiques morphologiques, c'était à associer avec caractéristiques génétiques. Si on prend un trait aussi simple que la calvitie, par exemple, ça peut être considéré comme un trait morphologique. Et dans certains cas, c'est considéré comme une pathologie, en particulier quand c'est très précoce. Donc, pour moi, c'était évident, et pour la plupart des gens, c'était évident que c'est comme ça que devait être interprétée la loi.
Sauf que là, il y a eu au sein même de la justice une bataille juridique. Hein. Les différentes institutions se sont renvoyées la balle avec donc, la chancellerie qui a dénoncé cette pratique, qui était contre. Elle considérait que c'était illégal. Et puis, la chambre d'instruction l'a, elle, validée. La chambre de cassation a ensuite confirmé cette validation. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un flou, est-ce qu'il faudrait légiférer pour savoir si oui ou non on peut utiliser ce nouvel outil scientifique dans les enquêtes ?
Moi, il me semble que c'est extrêmement important qu'il y ait la clarification et que cette clarification soit au niveau de la loi. Parce que c'est absolument pas anodin d'ouvrir cette porte. Parce qu'encore une fois, il y a plein de questions qui vont se poser. Qu'est-ce que c'est que des caractéristiques morphologiques ? Est-ce qu'on va y inclure l'origine biogéographique des personnes, par exemple ? Parce qu'on peut, à partir de l'ADN, souvent avoir une idée de l'origine biogéographique des personnes. Encore une fois, je parlais de la calvitie, mais il y a pas mal de traits comme ça qui peuvent être le nanisme, par exemple. C'est à la fois le fait d'avoir des individus de petite taille et c'est considéré comme une maladie. Par ailleurs, il y a des choses qui peuvent être révélées sur des personnes dont elles-mêmes n'ont pas connaissance. Hein. Par exemple, l'origine biogéographique. On peut peut-être révéler à des personnes des choses intimes sur elles. Mmh. Donc il faut absolument que cet usage-là soit réglementé par la loi, dans la mesure où en France, l'information génétique est considérée comme quelque chose de très spécifique qui doit être encadré par la loi.
D'accord.
Donc là, c'est vraiment une brèche dans le droit. Moi, je pense que les députés qui ont pensé cette loi n'ont pas pensé à ça et que du coup, il faut qu'ils se saisissent de ce problème et qu'ils décident et que la loi soit modifiée pour que ça soit bien encadré.
C'est prévu ou pas pour le moment ?
Pas à ma connaissance, mais voilà.
Ces portraits robots génétiques, est-ce qu'ils sont utilisés ailleurs qu'en France ? Est-ce qu'il y a des pays où déjà ça se pratique en routine presque ?
Alors les Anglais le pratiquent, mais à ma connaissance, ils ont commencé aussi un peu à encadrer la pratique. Et puis il y a les Pays-Bas où c'est assez avancé. Et il faut voir aussi qu'il y a des enjeux économiques très importants derrière, parce qu'il y a des laboratoires qui développent ces technologies avec la possibilité d'en faire un certain business ensuite et qui poussent à l'avancée et à l'usage de ces technologies. Et aux Pays-Bas en particulier, il y a des laboratoires de pointe qui poussent et qui souhaitent construire une offre importante. Donc il y a des enjeux économiques très importants.
Avec notamment ces laboratoires qui promettent qu'on est pour le moment à la préhistoire, mais qu'on va pouvoir faire de mieux en mieux. Ils parlent presque de photographie génétique à l'avenir, en affinant de plus en plus ces portraits obtenus à partir de
l'ADN.
Voilà,
c'est ça. Il y a des travaux dont le résumé un peu rapide dit qu'ils permettent de faire le portrait morphologique des personnes. Quand on lit précisément ces articles, on se rend compte qu'on est très très loin aujourd'hui de pouvoir faire ça. Et à mon sens, ce sont des choses qu'on n'arrivera pas à faire parce que, encore une fois, on ne s'intéresse qu'à la génétique, qu'à l'ADN. Or, la plupart de ces traits sont des traits complexes qui résultent de l'action de l'ADN et de l'environnement dans lequel les personnes sont.
Est-ce que cette histoire n'est pas un bon exemple de la difficulté du législateur à légiférer avec des techniques qui avancent très vite et qu'il faut en plus comprendre, maîtriser pour pouvoir légiférer dessus?
C'est l'idée des lois de bioéthique qui doivent être revues régulièrement parce que la technologie avance et il faut que la loi puisse s'adapter à la technologie. Moi, je pense que sur ces questions, les législateurs sont tout à fait en mesure de légiférer. Ils l'ont montré sur des sujets beaucoup plus complexes. C'est pas si complexe que ça. Bon, il se trouve que c'est tombé dans un... On peut dire que c'est tombé dans un trou. Moi, personnellement, je pense que c'est une interprétation osée de la Cour de cassation, un petit peu pour provoquer le législateur et lui dire... Les gars, au boulot, il y a un trou, il faut le combler.
Alors, et pour en revenir à l'histoire du violeur en série de Lyon, il a bien été arrêté en flagrant délit le 3 janvier 2014, mais pas grâce au portrait robot génétique qui avait été fait, mais parce qu'un voisin, alerté par les cris de la victime, a prévenu la police. Pour en savoir plus sur ces portraits génétiques, je vous recommande un article du Monde très bien fait, en lien sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Merci Catherine Bourguin. Je rappelle que vous avez publié aux éditions du Seuil ADN, superstar ou superflic.
Thank you.
c'était Hélicon de Cliché.
Salut.
La tête. Le club.
Open bar toute la nuit, ambiance de folie, toute sortie définitive.
Sur France Inter.
Se laisse réfléchir.
Cette année encore, il y a eu pas mal de jeux vidéo sous le sapin. Alors c'est l'occasion de se demander à partir de quand la pratique des jeux vidéo devient-elle problématique. Il y a quelques jours sont parus les premiers résultats de l'enquête PELEAS. PELEAS pour Programme d'études sur les liens et l'impact des écrans sur l'adolescence scolarisée. Je ne le dirai qu'une fois. Céline Bonner, vous êtes psychologue, clinicienne, spécialiste des addictions comportementales. Vous travaillez à l'Université Paris-Descartes en tant qu'enseignant-chercheur. Et vous faites partie des chercheurs qui ont mené cette enquête. Quel était le but de ce travail exactement ?
Alors le but, comme je disais tout à l'heure, ce n'était pas faire une étude épidémiologique. Il aurait fallu un échantillon beaucoup plus important. Nous, on est parti de notre pratique clinique telle qu'on l'a fait au centre Pierre-Nicole, donc au sein de la consultation jeunes consommateurs, le centre Pierre-Nicole étant un XAPA, centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Donc on est vraiment parti un peu de ce qu'on constate nous en clinique et on voulait l'éprouver dans la recherche. Et l'objectif majeur de cette étude, c'était d'étudier les facteurs associés à l'usage problématique des jeux vidéo. Oui. À l'adolescence.
Vous dites bien problématique et pas addictif. Oui. D'ailleurs, parmi les initiateurs de cette enquête, on trouve l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Donc, est-ce qu'on peut réellement mettre sur le même plan les addictions liées à des substances comme les drogues et celles liées aux jeux vidéo ?
Alors, il y a une réponse scientifique et médicale qui dit non. Qui dit qu'aujourd'hui c'est trop tôt. Aujourd'hui, il n'y a pas cette reconnaissance de l'addiction aux jeux vidéo. C'est encore, on n'a pas un recul suffisant. Donc, il va falloir attendre quelques années. Maintenant, il y a une autre réponse qui est plus du côté de la clinique, de la pratique clinique que nous, on a au quotidien, qui est qu'on reçoit quand même beaucoup d'adolescents. Enfin, c'est les parents qui amènent les adolescents pour ce type de problématique-là.
L'enquête a été réalisée auprès de 2000 jeunes, collégiens et lycéens de la région parisienne. Il s'agissait avant de s'intéresser à cette relation problématique que certains d'entre eux nouent avec ces jeux vidéo. Il s'agissait aussi de faire un état des lieux, de la pratique vidéo dans cette population de jeunes. D'abord, ce dont on se rend compte, c'est qu'ils jouent tous ou quasiment tous ces jeunes. C'est vraiment, vous dites, donnez-nous les chiffres si vous les avez en tête de la proportion d'adolescents. 8 jeunes sur 10 déclarent jouer à des jeux vidéo au moins une fois par semaine.
C'est ça.
Donc ils sont quasiment tous concernés.
Quasiment tous concernés par les jeux vidéo.
Mais les filles autant que les garçons ?
Alors non, on va dire qu'en matière de pratique d'écran, les garçons sont plus sur les jeux vidéo et les filles sont plus sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que les filles ne jouent pas aux jeux vidéo. Les filles jouent aux jeux vidéo, mais elles ne vont pas tout à fait jouer au même type de jeux vidéo. S'il y a bien un type de jeu qui est très féminin, ce sont les jeux de gestion, type Sims ou SimCity, alors que les garçons, eux, vont plutôt être sur les jeux de tir, les jeux d'action, les jeux de simulation. Et après, il y a un type de jeu pour lesquels on a une vraie parité fille-garçon. C'est les jeux d'application qui jouent sur tablette et smartphone, type Candy Crush ou Angry Bird ou ce type de jeu.
Et les jeux que l'on déconseille aux mineurs parce qu'ils sont trop violents, parce qu'ils mettent en scène des scènes sexuelles ou des choses illicites,
des propos racistes, incitation à la drogue, plein de choses.
Est-ce que les collégiens jouent quand même s'ils sont déconseillés aux mineurs, est-ce qu'ils jouent quand même avec ?
Plus de 8 collégiens sur 10 ont déjà joué à un jeu qui est PEGI 18. PEGI, c'est Pan-European Game Information. C'est un système de signalétique par âge et par contenu qui permet aux parents de toute l'Europe de faire un choix aguerri quand on choisit un jeu vidéo pour son enfant. Et donc, il y a une signalétique en termes d'âge en disant, non, voilà, c'est déconseillé au moins de 12 ans, c'est déconseillé au moins de 18 ans, etc. Et après, il y a un type de contenu qui explique pourquoi.
Et ça, je m'adresse à la psychologue clinicienne que vous êtes. C'est grave, docteur,
un
ado de 12 ans qui joue avec des jeux qui lui sont déconseillés ?
Non, j'ai envie de dire, à partir du moment où l'ado transgresse un interdit. C'est-à-dire que c'est pas grave à partir du moment où l'ado sait qu'il n'a pas le droit. Ce qui est plus problématique, c'est quand il ne sait pas qu'il n'a pas le droit et qu'il le fait quand même.
Donc, message aux parents, même s'ils le font, répétez-leur quand même qu'ils ne devraient pas le faire.
Oui, et puis après qu'ils le transgressent, ça c'est le job de l'adolescent. Mais une fois encore, ce n'est pas la même chose qu'on le transgresse en sachant qu'on n'a pas le droit de le faire.
Vous avez recherché les éventuels comportements problématiques dans cette étude avec donc un focus. Quelles questions avez-vous posées pour identifier ces comportements ? Des questions très précises pour essayer de se dépister presque soi-même.
En fait, on a utilisé une échelle qui s'appelle la Game Addiction Scale, qui est l'échelle de l'émeute. Simmons, qui est une échelle, quand on fait une revue de la littérature, c'est une échelle qui a des bonnes qualités psychométriques. Et puis, de surcroît, c'est vraiment une échelle adaptée pour les adolescents, ce qui n'est pas toujours le cas des échelles existantes. Mmh. Donc, il nous a semblé, nous, être la meilleure échelle. Et c'est une échelle qui se compose de 7 items. Voilà, c'est « Avez-vous pensé toute la journée à jouer à un jeu vidéo ? Avez-vous passé un temps de plus en plus important sur les jeux vidéo ? Avez-vous joué à un jeu vidéo pour oublier la vraie vie ou la vie réelle ? Est-ce que d'autres personnes ont tenté sans succès de réduire votre temps de jeu ? Vous êtes-vous senti mal lorsque vous étiez incapable de jouer ? Vous êtes-vous disputé avec d'autres à propos du temps passé à jouer aux jeux vidéo ? Et enfin, avez-vous négligé d'autres activités importantes type école, travail, sport pour jouer aux jeux vidéo ? Donc, c'est 7 items.
Voilà, cette question que vous posiez à ces jeunes, et si les jeunes répondent 4 fois ou plus, positivement.
Parfois, non. C'est une échelle de type Likert, donc c'est en fréquence. Ça va de c'est jamais, presque jamais, parfois, souvent et très souvent.
D'accord. Mais ceux qui répondent parfois, souvent ou au moins 4 fois, sont considérés
comme joueurs problématiques de jeux vidéo.
Ouais. Donc là, quand vous avez donné les questions, si certains se sont dit « Tiens, oui, je me reconnais », ils ont peut-être un problème avec...
Ils ont peut-être un usage problématique des jeux vidéo.
Et alors, quelle proportion de jeunes présentent un rapport problématique à ces
jeux
vidéo ?
14%. C'est 14%, c'est pas sur les 2000 lesquels, c'est sur les joueurs hebdomadaires. Et chez les joueurs hebdomadaires, c'est 1693 individus qui ont répondu « être joueur hebdomadaire ». Et sur ces 1693, il y a 14% de joueurs problématiques.
Quel est le profil type du joueur addict ? Parce que vous avez un peu essayé justement de voir ce qui pouvait être des facteurs liés à cette addiction.
Disons qu'il y a les facteurs qu'on retrouve chez ces joueurs problématiques. Et puis après, nous, on a fait ce qu'on appelle des analyses de régression. La régression, en fait, c'est rentrer un certain nombre de facteurs et voir dans quelle mesure ces facteurs permettent éventuellement de prédire l'usage problématique de jeux vidéo. Alors, c'est une étude transversale, donc c'est à prendre avec des précautions, parce qu'il aurait fallu faire une étude prospective longitudinale. Mais quand on regarde ces facteurs associés, ces facteurs prédictifs, c'est le fait d'être un garçon, c'est le fait de jouer seul ou en ligne, c'est le fait d'avoir sa propre console de jeu, c'est le fait de présenter une symptomatologie dépressive, c'est le fait d'avoir redoublé au moins une fois, le fait d'avoir des parents eux-mêmes hyper connectés, et puis le fait d'avoir un encadrement parental faible. Alors, par encadrement parental faible, on entend avoir des parents qui ne savent pas où et avec qui leur enfant est le soir, et puis des parents avec qui il n'est pas toujours facile de communiquer, des parents qui offrent peu de réconfort, de soutien moral.
Donc, quel conseil on peut donner de façon très pragmatique aux parents qui, en entendant ce que vous dites, disent « Ah tiens, moi, il y a peut-être un petit problème avec
mon
ado ».
Moi, je dirais, il y a une vraie nécessité d'une éducation à l'usage des écrans. Et l'éducation à l'usage des écrans, ça commence dès tout petit. C'est-à-dire que les écrans, les jeux vidéo en font partie, mais je vais dire les écrans au sens large, c'est pas trop tôt, c'est pas n'importe comment. C'est jamais seul. Il faut absolument mettre des règles et des limites. Alors, poser des règles et des limites, j'ai envie de dire, c'est presque pas ça le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de les faire appliquer et les faire respecter. Mmh. C'est là où ça peut se compliquer. Et ensuite, il faut absolument accompagner. Il faut donner du sens. Il faut mettre des mots. Il faut apporter un contexte de signifiant à l'enfant. Il faut expliquer aussi que sur Internet, il y a beaucoup de choses qui sont fausses, que les choses sont truquées, ce genre de choses.
Alors, Florent vous demande sur la page de l'émission sur franceinter.fr. La pratique du jeu vidéo est souvent perçue comme négative alors que c'est une activité très stimulante. Il vaut mieux jouer aux jeux vidéo que regarder la télé. Non, demande Florent.
Alors, 14% de joueurs problématiques de jeux vidéo sur notre étude, ça sous-entend quand même un chiffre qu'il faut absolument retenir, c'est 86% d'entre eux n'ont aucun problème avec les jeux vidéo.
Voire en tirent certains bénéfices, mais bien sûr, ça peut être profitable de jouer aux jeux vidéo.
Mais bien sûr, les jeux vidéo apportent énormément de bénéfices, je vais vous en donner quelques-uns. Les jeux vidéo, ça permet de se faire de nouveaux amis, ça permet de se socialiser, ça permet de gérer les contacts sociaux et de travailler en équipe, ça permet de générer des émotions positives, ça permet d'explorer différents registres identitaires. Ça améliore la capacité à se représenter l'espace tridimensionnel. Ça améliore l'intelligence déductive. Ça permet de développer la capacité de gestion de tâches multiples et simultanées. Ouais. Enfin, il y en a beaucoup.
N'en jetez plus, la cour est pleine.
La liste serait très longue.
Alors, pourquoi, Sophie qui vous pose cette question, pourquoi ne parle-t-on pas de l'addiction des adultes aux jeux vidéo, qui est une réalité ? Parce que c'est vrai que je me suis fait la réflexion, je me suis dit, c'est toujours pour les ados qu'on s'inquiète, mais aujourd'hui, tout le monde joue, y compris les adultes, y compris les plus de 40 ans.
Et bien sûr qu'il y a des adultes usagers problématiques de jeux vidéo. C'est juste que là, il y aurait des points communs, mais il y a aussi des spécificités. C'est pas tout à fait la même chose d'être adolescent et d'avoir un usage problématique de jeux vidéo. Et on va pas prendre en charge, nous, de la même façon, un adolescent qui a ce type de problématique-là, et qui d'ailleurs ne vient pas de lui-même, mais est amené par ses parents, et puis un adulte qui a cette problématique-là. Mais on est d'accord que c'est une réalité aussi chez les adultes.
Merci Céline Bonner. Nous
Merci
avons mis
vous.
Un lien vers les résultats de votre étude sur la page internet de l'émission. Et pour se changer les idées et ne pas passer la journée devant sa console, pourquoi ne pas aller faire un tour du côté du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris pour aller y découvrir Trésor de la Terre. Cristaux géants, pierres précieuses et météorites, on en parle dans un instant avec le minéralogiste François Farge, à qui vous pouvez adresser vos questions sur le site franceinter.fr à la page de l'émission. Iron Lion Zion, Bob Marley sur France Inter dans La Tête au Carré. La programmation musicale est signée Jean-Michel Montu.
Voilà. La Cadillac. Voilà.
Schématisé, mon vieux, schématisé.
Oui, mais attendez, la petite capote. Hein. Et voilà. Bon. Les bijoux de Baalbek, diamant, émeraude, rubis, dans la batterie.
Et le Yukun Kun, il est aussi dans la batterie?
Non, monsieur. Le Yukun Kun, le plus gros diamant du monde, il est là.
Des pierres précieuses, il y en a à découvrir dans la nouvelle exposition du Muséum National d'Histoire Naturelle, Trésor de la Terre. On y trouve aussi des cristaux géants ou encore des météorites. Pour en parler avec nous, François Farge, minéralogiste, enseignant au Muséum. Le Muséum qui abrite l'une des plus belles collections de minéraux du monde. Quand a-t-elle débuté cette collection? Elle ne date pas d'hier, François Farge.
Elle a été fondée, oui, elle a été fondée sous Louis XIII, alors entre, on va dire, 1628 et 1635. 35 entre le décret et la mise en application. On a une idée du nombre de pièces que possède cette collection ?
Oui, alors on a conduit un inventaire vraiment détaillé depuis 2006. Oui. On est à 130 000 échantillons environ en minéralogie. Et en roche, on est à plus de 400 000 et il y a plus de 3 000 météorites.
Oui, donc il a fallu faire du tri et sélectionner les plus beaux spécimens. Oui. pour en retenir combien pour les exposer dans cette nouvelle exposition ?
On en expose environ 600. Oui. Donc sur 250 mètres carrés, et donc ce que nous avons considéré comme étant les plus belles pièces et les plus représentatives d'une histoire qui est l'histoire de la Terre, de l'histoire de sa formation, de l'histoire de tous ces trésors qui sont les cristaux qu'elle a engendrés, mais aussi, et ça c'est ce que en 1793 les pères fondateurs du muséum voulaient, il fallait aussi montrer les trésors que l'humanité en a produit. Donc on présente une partie, je dirais qu'il y a une grande moitié qui est sur les cristaux naturels tels qu'on les a trouvés dans les mines et les gisements, et l'autre moitié, petite moitié, c'est plus les pierres ouvragées, notamment une grande partie des collections royales.
Oui, alors restons d'abord sur les cristaux que la Terre a produites. Il y a par exemple les 18 cristaux géants qui sont bien mis en valeur dans l'une des salles. D'où sortent-ils ces cristaux géants ? Comment se forment-ils ?
Alors on a effectivement une salle, effectivement, et au centre on a un grand alignement de cristaux géants de diverses natures. Ils se sont formés dans des pays très particuliers où la géologie a été clémente et surtout constante, et notamment au Brésil, d'où viennent la très grande majorité de la collection de cristaux géants que nous avons, qui est par ailleurs la plus belle au monde. Ils ont pu se former parce qu'il y a eu très peu d'événements tectoniques au Brésil depuis 600 millions d'années. Donc ces cristaux ont pu croître pendant des millions d'années, et tout doucement, tranquillement, et donc ils ont pu atteindre des tailles tout à fait considérables. Et après, il a fallu les préserver. C'était une autre histoire parce qu'ils étaient tous voués au concassage et pour faire du gravier. Et donc, on a réussi à préserver, on a été plusieurs dans la filière pour y arriver. Et donc, ces cristaux ont pu être ramenés au muséum.
Alors, aidez-nous à nous y retrouver entre eux, cristal, minéral, roche. Quelle est la différence ?
Alors, un cristal, c'est un solide minéral délimité par des formes géométriques qui sont définis par les lois de la cristallographie, donc des lois mathématiques et géométriques. Le minéral est une substance qui quelquefois forme des cristaux visibles, pas tout le temps. Il y a des minéraux qui ne forment pas de cristaux, comme l'opale par exemple, donc qui sont des substances minérales ayant une structure atomique définie et une composition chimique définie et d'origine naturelle.
D'accord. Donc si je comprends bien, le cristal est un type de minéral particulier.
C'est une autre définition, c'est une définition plus cristallographique, je dirais, alors que le minéral est plus une définition, je dirais, naturelle. Naturaliste, entre guillemets.
Lucie vous demande sur Internet, est-ce qu'il reste des minéraux inconnus ? Est-ce qu'on en découvre encore des nouvelles espèces ? On parle d'espèces. Hein. Oui. Il y a une diversité aussi dans la minéralogie.
Alors, on trouve chaque année entre 50 et une centaine d'espèces minérales nouvelles. Alors, elles sont nouvelles, sous-entendu pour notre connaissance. Elles existaient dans la Terre. En général, ce sont des petites espèces. Et au muséum, l'année dernière, on en a trouvé deux nouvelles, Fabriésite et Trinéphéline.
C'est leur nom, très joli.
Ouais. Oui, très joli. Voilà. Et puis, c'est surtout que l'année dernière, on a découvert une espèce minérale, enfin, on l'a enfin décrite, qui constitue l'essentiel, qui est le minéral le plus abondant dans la Terre profonde, qui est la bridgmanite, qui est la fameuse perovskite Mg, dont vous avez certainement parlé ici, qui constitue l'essentiel du manteau terrestre.
Charles vous demande, le cristal utilisé pour nos verres, ou en ces temps de fête pour les coupes de champagne, à partir de quels minéraux est-il réalisé ?
Alors, il y a déjà l'ambiguïté sur le mot cristal. C'est du cristal, c'est un mot qui a été utilisé de façon un peu abusive par les verriers depuis la Venise médiévale pour justement entrer en compétition avec les objets qui étaient taillés dans le cristal de roche et qui étaient destinés aux collections aristocratiques. Les bourgeois n'avaient pas les moyens de se permettre ces objets uniques, donc il y a eu une production effectivement de verre de type, en italien, en vénitien on disait cristallo, qui était donc un simulant du cristal de roche naturel. Donc on prend toujours du quartz, on prend de la chaux, on prend un fondant qui est du natron, du carbonate de sodium. Et en général, avec ces ingrédients-là, on peut arriver à faire un beau cristal, entre guillemets.
parmi toutes les pierres qui sont présentées dans cette exposition, certainement que vous les aimez toutes, on sent votre passion, certainement qu'elles sont toutes précieuses à vos yeux, ouais. Mais c'est vrai que dans le grand public, il y en a qui sont plus précieuses que d'autres, hein. Les gemmes, le diamant, les émeraudes, les rubis, hein, ce sont aussi des minéraux d'ailleurs, ces pierres-là. Mmh. Alors l'exposition en présente, hein, vous l'avez dit, des pierres très bien taillées, il y a notamment un saphir, un saphir qui est bleu, qui a appartenu à Louis XIV, je crois. Décrivez-le, il est présenté dans l'exposition.
Oui, pour la première fois depuis de très très longues années, on présente enfin le grand saphir de Louis XIV, qui était la troisième gemme des joyaux de la couronne, et pour lequel on a retrouvé récemment, j'ai retrouvé donc dans les archives de la Maison du Roi, sa véritable histoire. Et elle était absolument fabuleuse, parce que dans les années 1669, Louis XIV a tenu à acheter deux gemmes bleues pour illustrer les couleurs de la monarchie française, azur et or. Et donc, il a acheté le plus grand saphir bleu connu à l'époque, qui est taillé avec simplement 6 facettes. C'est-à-dire que pour l'art baroque de l'époque, c'est absolument étonnant qu'il y ait en général, cette époque, quelque chose un peu surchargé, toujours organisé de façon très symétrique. Là, on a une pierre qui est qui est d'un modernisme incroyable pour l'époque. Et en même temps, il s'est acheté le plus beau diamant du monde, qui reste encore le plus beau diamant du monde, à mon avis, qui est le grand diamant bleu de Louis XIV.
Oui. Alors là, on est parti sur une véritable enquête, hein, digne d'un film. Vous avez recherché ce diamant dont on avait complètement perdu la trace. Il avait été volé lors de la Révolution. Oui. Racontez-nous cette histoire.
Ben, en fin de compte, les deux pierres fétiches de Louis XIV donc, avaient été volées à la Révolution. En fait, le grand saphir sera retrouvé. Et sa forme tellement inhabituelle va faire croire aux gens sous la Terreur que c'est un cristal naturel, donc il va être donné au muséum. Donc on est toujours très content de la donation.
Il est revenu un petit peu par une voie détournée.
Et malheureusement, pour le grand diamant, il va disparaître pour de bon. Les voleurs vont le retailler. Et c'est grâce à une découverte d'un moulage en plomb complètement anonyme qui avait été laissé dans les tiroirs qu'en 2007, j'ai pu identifier ce moulage comme étant celui du diamant bleu de Louis XIV pour lequel on n'avait aucune information. Et on a pu trouver son avatar actuel et confirmer que c'était bien le diamant Hope qui était à Washington.
Voilà, donc il est exposé ailleurs sous le nom de diamant Hope et il a été saccagé en quelque sorte, puisqu'il a été retaillé alors qu'il était superbe, il avait des reflets, il y avait une étoile qui apparaissait à l'intérieur selon la façon dont on l'orientait. Et il a été saccagé pour ne pas être reconnu.
Il a été massacré effectivement pour ne pas être reconnu et effectivement il avait une magnifique forme triangulaire qui est très complémentaire de l'autre clou de l'exposition qui est le grand saphir, qui lui a une forme extrêmement simple et extrêmement épurée et donc ce diamant a disparu et donc on a reconstitué des répliques de ce diamant là, avec l'aide de la Smithsonian qui nous a autorisé à avoir un modèle exact du diamant Hope. Et on présente au sein d'un théâtre de lumière toute cette petite histoire qui remonte aux Indes au XVIIe siècle où le diamant est arrivé, d'où le diamant est arrivé, la retaille sous Louis XIV, le vol de 1792 et la découverte de 2007.
Voilà, avec cette reproduction, donc un diamant bleu de synthèse. Comment on fait un diamant de synthèse? Différent de l'original?
Oh là là, c'est pas un diamant de synthèse, c'est de la zircone cubique, qui est un simulant très proche du diamant, pas exact, mais assez proche, et qui permet de se donner, d'avoir une idée de à quoi ressemblait le magnifique chef-d'œuvre qu'était ce diamant.
Une question de Louis sur Internet. Que sont les petites formes que l'on peut voir dans l'ambre? Il y a aussi des morceaux d'ambre que l'on peut voir dans l'exposition.
Ah oui, on présente un magnifique morceau d'ambre dans ce qu'on appelle nous la quatrième alcôve. Donc les visiteurs pourront la rechercher. C'est la quatrième. Et effectivement, dans lesquelles on trouve des insectes fossilisés. Et la grande découverte qui a été faite au muséum, c'est que la majorité des insectes qui sont dans l'ambre, on ne les voit pas. Il faut utiliser des méthodes modernes sur synchrotron, notamment des sources rayons X très intenses qui permet de voir ce fourmillement d'insectes dans ces morceaux d'ambre.
L'exposition Trésor de la Terre est à découvrir au Muséum National d'Histoire Naturelle. A signaler également un très beau livre intitulé Trésor de la Terre, paru aux éditions du Muséum. Merci François Farge, Catherine Bourguin et Céline Bonner d'avoir participé à notre club des Têtes au Carré.
Merci à vous. Merci.